Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radaoui, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le docteur Nelly Mortignera. Bienvenue à notre nouvelle émission qui a pour thème le diabète instable, quelle perspective de prise en charge en 2021. Et comme d'habitude, vous savez qu'on a un certain nombre de questions qui nous ont été posées, auxquelles on répond. Donc ce qui est bien, c'est que les demandeurs de solutions ont un peu fait le tour de la question en posant des questions qui ont été finalement ciblées au fur et à mesure. En effet, Sylvaine, Jamel et Valérie ont posé des questions sur qu'est-ce que le diabète instable, comment est-ce qu'on définit un diabète instable, que veut dire un diabète instable. Ce qu'il faut savoir, c'est que du simple fait d'être diabétique, on va avoir une instabilité glycémique parce que notre pancréas ne peut plus répondre de manière effective à la demande en insuline que notre corps a besoin. Donc, il existe une instabilité de fait chez le diabétique, quel que soit le diabète. Et puis, si on est très mal équilibré, si on ne fait pas ce qu'il faut, on crée une instabilité qui est une instabilité acquise. Parce que on ne fait pas ce qu'il faut, donc on se retrouve dans une situation où les nos glycémies ne seront jamais à l'objectif que nous nous sommes fixés, et donc on se retrouve dans une instabilité, mais qui est acquise. Si on se met à corriger les facteurs de cette instabilité, on va récupérer une meilleure stabilité glycémique, et à ce moment-là, on n'est plus dans le diabète instable comme nous l'entendons ici. Le diabète instable dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un diabète qui va toucher les diabétiques de type 1. C'est un diabète qui va, au-delà de toucher les diabétiques de type 1, va toucher des diabétiques de type 1 en faible proportion, parce que ce ne sont pas tous les diabétiques de type 1 qui vont présenter une instabilité. Il y a un petit pourcentage de diabétiques qui ont cette instabilité qui nous pose problème, nous, dans la prise en charge de ces patients. Donc, ce sont des diabétiques qui sont de type 1, comme je le disais tantôt, et qui vont avoir une certaine évolutivité de diabète, une longue histoire de diabète, avec de nombreux épisodes aigus de complications en ce qui concerne leur instabilité. Ils vont énormément faire des accidents acido-cétosiques, on dit plus de 3 dans l'année. Ils vont présenter des hypoglycémies sévères, des hypoglycémies nocturnes. Ils vont présenter des variations entre les hypo et les hyperglycémies. Et leur prise en charge est plus ou moins difficile parce que les glycémies ne répondent pas à un temps tranquille. Hein, c'est un courant comme des vagues tumultueuses au moment de la houle, quand la mer est déchaînée. Donc, c'est ce type de patients qui vont nous poser problème et qui vont nous emmener à réfléchir de manière un peu différente dans la prise en charge de leur diabète. Et en 2021, des perspectives sont possibles. Donc, c'est cela le sujet de notre entretien d'aujourd'hui. Donc, la gravité de ce diabète instable, c'est le fait de faire beaucoup d'accidents aigus du diabète, hein, l'acidocétose, des hypoglycémies, des comas hypoglycémiques importants qui nécessitent l'intervention de personnes extérieures qui vont gêner énormément les patients jusqu'à détériorer leur qualité de vie. Et c'est cela qui va nous emmener à trouver une stratégie de prise en charge pour que ces patients-là ne soient pas invalidés par leur maladie, d'autant plus que ces courants d'instabilité précipitent un peu plus vite vers les complications dégénératives, c'est-à-dire les complications par atteinte ophtalmologique, nerveuse, atteinte rénale, événements cardiovasculaires, dégradation de la fonction rénale jusqu'à l'insuffisance rénale terminale, attaque cérébrale, attaque cardiaque, donc toutes les complications inhérentes et possibles au diabète. Donc ces patients-là vont bénéficier d'une stratégie particulière. Il faut savoir que ce diabète instable est un diabète que nous redoutons parce qu'il peut s'accompagner de morts subites. La première étape de cette prise en charge, c'est d'essayer d'abord d'évaluer cette instabilité. Et le meilleur moyen de l'évaluer, c'est d'utiliser les dispositifs de mesure de glucose en continu. Donc, dans ces conditions-là, l'arrivée des capteurs glycémiques est un bénéfice parce que ces capteurs vont nous permettre de mesurer en continu les glycémies de votre patient en interstitiel pour évaluer ce qu'on appelle la variabilité glycémique intrajournalière, c'est-à-dire comment est-ce que ces glycémies-là évoluent au sein de l'organisme du patient dans la journée, puis après, d'une journée à l'autre, puisqu'on n'aura pas un fleuve tranquille dans la même journée et surtout pas un fleuve tranquille les jours qui se suivent. Ça permet aussi, grâce à ces dispositifs couplés à des logiciels, de déterminer le temps passé par ces patients en hypo et les temps, la durée passé en hyperglycémie. Donc, on va évaluer l'instabilité glycémique par ces dispositifs. On va évaluer le degré de détérioration de la qualité de vie. Le degré de détérioration de la qualité de vie va s'évaluer par le nombre d'accidents acido-cétosiques, le nombre de comas hypoglycémiques, le nombre de fois que passe le SAMU ou les pompiers chez vous pour vous resucrer, vous aider à vous resucrer ou à resucrer la tierce personne qui est diabétique chez vous, le nombre de fois que ce patient reste déséquilibré avec des alternances d'hypo et d'hyperglycémie, et surtout un mauvais équilibre glycémique traduit par une hémoglobine glyquée qui n'est pas contrôlée, et surtout la détérioration de la qualité de vie. Cette détérioration de la qualité de vie qui, elle, va s'évaluer par le changement de statut. Ce sont des patients qui vont énormément être hospitalisés, qui vont, si elles travaillent, être obligées de changer leur statut professionnel, passer en temps thérapeutique, puis passer en invalidité, première, deuxième catégorie. Ce sont des patients qui vont développer des profils psychologiques parce qu'à force d'être mal, développer des dépressions, développer des personnalités plutôt schizoïdes, voilà, des troubles de la personnalité. Et donc, dans ce contexte-là, la qualité de vie est détériorée et votre patient est considéré comme un diabétique de type 1, puisque ça touche souvent les types 1, hein, comme on l'a dit, instable. Ensuite, on va rechercher quand même des facteurs exogènes qui pourraient en mener là. Donc, on va regarder la qualité alimentaire du patient. On va lui proposer éventuellement de bénéficier de ce qu'on appelle insulinothérapie fonctionnelle, c'est-à-dire apprendre à manger librement, mais tout en gardant l'équilibre de son diabète dans les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, ça, pour essayer de voir si c'est la composante alimentaire qui, elle, est responsable de cette instabilité. Si on a éliminé la composante alimentaire mais que l'instabilité persiste, on va aussi aller chercher des maladies auto-immunes qui peuvent, comme ça, aggraver l'instabilité glycémique chez le patient. Ça peut être la maladie cœliaque. Vous savez que la maladie cœliaque, c'est cette particularité de maladie auto-immune qui touche le tube digestif et qui entraîne une intolérance au gluten. Et des fois, le simple fait de retirer le gluten de son alimentation améliore un peu cette instabilité. On va aussi aller chercher la neuropathie digestive, hein, ce qu'on appelle la gastroparésie diabétique, c'est-à-dire l'atteinte des petits nerfs qui permettent à l'estomac de bien se mouvoir par le diabète et d'entraîner un espèce de ralentissement du bol alimentaire. Les patients présentent souvent des douleurs après manger, vont faire des hypoglycémies après les repas et vont détériorer comme ça leur qualité de vie. Le traitement de cette gastroparésie par des dispositifs bien spécifiques peut améliorer aussi l'instabilité glycémique, et on peut penser que c'est grâce à, que c'est parce qu'il y a une neuropathie digestive qu'il y a instabilité glycémique. Ensuite, on va essayer de voir avec le patient comment il gère les activités physiques non programmées, celles qu'il va faire alors qu'elles ne sont pas prévues. Celles-là aussi peuvent entraîner des hypoglycémies et puis des resucrages et par derrière des hyperglycémies après resucrage et créer une instabilité glycémique. Enfin, on va essayer de voir avec le patient sur le plan clinique comment est-ce qu'il réalise ses injections d'insuline. On regarde le point de ponction et on recherche ce qu'on appelle les lipodystrophies, c'est-à-dire les amas d'insuline agglutinés sous la peau sous forme de petites nouillures qui font comme des petites bosses quand on palpe l'abdomen du patient, et on retrouve des espèces de petites boules en sous-cutané. C'est des amas d'injection d'insuline qui ne se sont pas dilués et qui n'ont pas joué leur rôle. Donc ces amas-là peuvent de temps en temps larguer de l'insuline et créer une instabilité chez le patient. Donc on va rechercher effectivement les lipodystrophies pour éliminer la présence d'une instabilité glycémique à cause de ce phénomène-là. On va mettre en place aussi un accompagnement psychologique du patient, et ce pour essayer de prendre en charge sa dépression, l'accompagner dans une meilleure acceptation de sa maladie. Il faut rechercher le déni de la maladie aussi chez ces patients qui n'est pas simple d'accepter d'avoir une maladie déjà au long cours, à vie, et une maladie qui vous crée des désagréments au jour le jour jusqu'à détériorer votre qualité de vie. Là, c'était pour répondre à Valérie, Brideil et Jean qui se posaient un peu la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait arriver à la possibilité de déterminer circonscrire cette instabilité glycémique. Et puis, comment traiter finalement, comment la prendre en charge, comment la traiter, en dehors de ce qu'on a dit, d'éliminer des facteurs exogènes. Lorsqu'on a posé le diagnostic de diabète de type 1 instable, la prendre en charge. Et cette prise en charge, elle se fait par étapes. Elle se fait par étapes. La première étape, puisqu'on est diabétique de type 1, on va être traité par insuline en multi-injection, ce qu'on appelle le schéma basal bolus. C'est de passer de ce schéma basal bolus en une amélioration de la prise en charge des glycémies, des valeurs, enfin, en améliorant la qualité de la prise en charge par le passage en pompe sous-cutanée. Et là, on peut effectivement mieux circonscrire l'instabilité. Elle était peut-être simplement due au fait que le patient a du mal à adapter les doses d'insuline rapide au moment des repas. Des fois, il surjoue un peu trop, ou alors il sous-évalue les doses parce qu'il a peur des hypoglycémies. Et c'est ce qui crée ces instabilités et ce déséquilibre qui devient au long cours. Et donc à ce moment-là, on passe en pompe sous-cutanée et on voit ce que ça donne sur une période d'à peu près 6 mois. Si au cours de cette période de 6 mois, on sent que l'instabilité glycémique est mieux contrôlée, ben on peut s'arrêter là. Mais si on n'a pas une meilleure gestion de cette instabilité glycémique, on va passer à une deuxième étape. La deuxième étape, c'est de poser le capteur glycémique en même temps que la pompe et éventuellement initier l'arrêt prédictif des hypos, c'est-à-dire anticiper sur les hypos et permettre d'arrêter la pompe, surtout si ce sont les hypoglycémies de jour comme de nuit qui sont les plus gênantes. On va coupler la pompe à un capteur de glycémie et initier la fonction prédictive d'arrêt avant hypoglycémie. Et puis là, on peut avoir la solution à cette instabilité glycémique et se satisfaire de cela. Mais si jamais, malgré ce, les choses ne rentrent pas dans l'ordre, on va passer à une troisième étape qui est celle d'évoluer vers ce qui est actuellement la boucle fermée, c'est-à-dire le pancréas artificiel vulgairement appelé comme ça, la possibilité de corriger les hyperglycémies par des microbolus et d'empêcher les hypoglycémies grâce à l'intelligence artificielle. Et en général, on va pouvoir, dans ce contexte-là, améliorer déjà en bon nombre l'instabilité glycémique. Donc il peut arriver après ce que certains patients présentent quand même des instabilités glycémiques extrêmes. Et là, on passera à des thérapies qui ne relèvent plus de notre compétence, parce que jusqu'à la possibilité de passer en boucle fermée, ce qu'on appelle vulgairement le pancréas artificiel, c'est des choses que nous pouvons gérer, que nous gérons même actuellement dans notre service, au service d'endocrinologie de l'hôpital de Perpignan. C'est possible. Donc après, il faut se rapprocher d'équipes beaucoup plus spécialisées, élaborées, qui vont vous implanter des dispositifs. D'abord, le dispositif de pompe implantable qu'on implante en région péritonéale et qui permet comme ça de shunter le premier passage insulinique par le foie. Et ça, ça permet aussi de corriger l'instabilité glycémique. Et si cette méthode, excusez-moi, ne suffit pas pour contrôler notre instabilité glycémique, notre diabète de type 1 instable, on évoluera donc vers le stade ultime de la prise en charge des diabètes instables à l'heure actuelle, c'est la greffe d'hylopancréatique. La greffe d'hylopancréatique qui répond à des critères bien spécifiques, qui mérite une RCP, qui sélectionne les patients. Elle demande un certain nombre de donneurs, une greffe chirurgicale, comme l'implantation de la pompe en intrapéritonéal, et elle nécessite aussi ce qu'on appelle des traitements immunosuppresseurs, c'est-à-dire des traitements anti-rejet, qui sont des traitements quand même lourds et qui méritent qu'on surveille de manière beaucoup plus drastique les patients. Donc voilà ce que nous pouvions répondre à Brigitte, LS, Vava, Rose, Valérie, Jean, Jamel, Sylvaine, dans les questions qu'ils se posaient sur le diabète instable. Donc le diabète instable touche un faible nombre de diabétiques de type 1. C'est une instabilité glycémique qui n'est pas due à un désordre uniquement de sa vie, qui répond à des incapacités du pancréas de manière plus grave, plus importante, et qui se complique beaucoup plus vite des anomalies dégénératives du diabète et qui aboutissent à des situations graves, importante, c'est la raison pour laquelle elles répondent à des prises en charge très spécifiques qui évoluent par étapes. Donc voilà ce que nous avions à répondre à nos internautes. Nous remercions comme d'habitude toutes les personnes qui nous écrivent. Nous allons maintenant répondre un peu aux questions du direct en récoltant les questions que vous nous posez en live là sur le moment. Nous vous remercions d'être toujours présents malgré la qualité de l'image. Les outils, Ahmed nous demande si les outils digitaux pour le suivi du diabète à distance peuvent être fiables pour aider l'endocrinologue à suivre son diabète. Oui, il suffit d'avoir un bon réseau Internet. La télémédecine aujourd'hui permet de suivre quelqu'un en Chine et cette personne, votre diabétologue est en Europe ou ailleurs et le patient se trouve sur un autre continent. Il suffit d'avoir un bon réseau Internet, une bonne, une bonne connexion et vous pouvez discuter en live avec votre médecin. Il vous suit, il regarde parce que vous avez téléchargé vos données que vous les lui avez précédemment envoyées. Il les analyse et ensuite, de visu, en discussion comme nous faisons là, puisque là c'est la preuve de l'utilisation des réseaux digitaux justement, des réseaux sociaux, dans la discussion que nous avons avec vous chaque semaine. Donc, si nous sommes en capacité de le faire, vous pouvez le faire aussi avec votre endocrinologue. Il y a des logiciels à disposition, des applications que chacun de vous télécharge et vous avez la possibilité de discuter sur un créneau qui vous sera consacré avec votre diabétologue qui peut se trouver à 10 000 lieues de vous, comme si vous étiez présentiellement en consultation et il vous donnera les conseils nécessaires pour améliorer votre équilibre glycémique et votre qualité de vie. Oui, Ahmed, c'est possible. Ensuite, tenir un carnet d'auto-surveillance en cas de diabète de type 2 est-il nécessaire pour aider le médecin à équilibrer le diabète? Oui, bien sûr, toujours, parce que ce carnet d'auto-surveillance glycémique nous montre vos glycémies à des moments bien précis que nous aimons bien, des temps à jeun, des temps après manger, des temps à des heures bien précises pour savoir si votre pancréas fabrique toujours de l'insuline. Ces horaires qui sont cycle glycémique ou mini-cycle glycémique, appelés cycle glycémique ou mini-cycle glycémique, nous servent à prendre les bonnes décisions dans la stratégie de prise en charge de votre traitement pour savoir quel type de médicament on va initier, à quel moment de la journée il faut poser vos médicaments et comment intensifier pour que votre équilibre glycémique soit bien meilleur, mais surtout que vous soyez mieux en termes de qualité de vie. En termes de qualité de vie, parce qu'il ne faut pas simplement surjouer le traitement si ça détériore votre qualité de vie. Donc à Brigitte, je dis oui, tenir des carnets d'autocontrôle, c'est possible, mais de plus en plus, on est doté de lecteurs de glycémie qui, dorénavant, ont des carnets d'autocontrôle intégrés dans leur mémoire et qui font que vous n'avez plus besoin d'avoir le carnet papier. Vous pouvez venir directement en consultation avec votre lecteur et nous déroulons ce carnet qui est déjà inscrit avec des données qui peuvent être rajoutées, celles de vos repas, celles de l'activité physique, celles des doses d'insuline que vous avez faites pour attraper éventuellement une glycémie qui était un peu trop élevée, celles des gestes de la vie courante que vous avez mis en place pour pouvoir améliorer une glycémie que vous aurez trouvé pas bien. Ça, c'est d'autant plus intéressant qu'avec tous ces éléments-là, on peut réfléchir à comment améliorer l'équilibre glycémique spécifiquement chez vous, avec ce que vous faites, comment vous vivez, dans quel environnement. Voilà. Alors, les pompes à insuline s'arrête lorsque la glycémie baisse, brutalement notamment en cas d'activité physique. Je ne comprends pas bien la question. Je pense que Rémi veut nous demander si la pompe à insuline va s'arrêter brutalement si, en cas d'activité physique, il commence à faire une hypo. Alors, il faut savoir que les arrêts brutaux, ce n'est pas des arrêts brutaux. C'est un logiciel qui permet de calculer sur un délai de 30 minutes à peu près. Si vous allez passer le seuil hypoglycémique que nous avons fixé avec vous sur votre pompe. Et si ce seuil est dépassé vers le bas, dans les 30 minutes qui suivent, en anticipé, la pompe va s'arrêter. Elle ne va pas s'arrêter à ce moment-là, elle va s'arrêter en anticipé quand on lui met cette fonction de veille de l'hypoglycémie. Si on ne met pas la fonction de veille de l'hypoglycémie sur votre pompe, parce que c'est des outils possibles qui existent dans votre pompe, c'est d'arrêter à une valeur stricte, c'est-à-dire je peux dire que votre pompe arrête d'infuser l'insuline à 0,70 g de glycémie, c'est-à-dire quand vous atteignez cette valeur-là, ou alors je lui demande d'anticiper et de vérifier si À quel moment je dépasse le seuil des 70 vers le bas? Si effectivement, dans les 30 minutes qui vont arriver, je vais descendre en dessous des 0,70, je peux l'arrêter en anticipé pour que je n'arrive jamais au 0,70. Voilà ce qui est intéressant dans l'arrêt prédictif d'hypo. Je prévois à l'avance l'hypo et je m'arrête bien avant pour que je n'atteigne jamais l'hypo. Ça aussi, c'est un temps très intéressant parce que là, on n'a plus du tout d'hypo. Alors là où vous ferez toujours les hypos, c'est quand au moment du repas vous mangez, vous envoyez votre bolus. À ce moment-là, si le bolus est trop rapide, la chute vertigineuse de la glycémie fait que la pompe, elle, n'est pas un cerveau humain ou un organe qui est programmé pour ça. C'est une machine, donc elle n'a pas le temps d'anticiper. Et cela, oui, il peut arriver qu'elle va s'arrêter, mais elle va s'arrêter trop tard. Vous aurez déjà passé la barre des 0,70 et vous aurez peut-être même déjà fait l'hypo. Mais de plus en plus, on a cette fonction de veille de l'hypoglycémie qui nous permet d'anticiper et de ne jamais atteindre la valeur seuil qu'on a fixée. À ce moment-là, on n'atteint jamais l'hypo et ça, c'est très intéressant. Donc, Gérard nous demande comment l'insulinothérapie fonctionnelle va aider à stabiliser le diabète efficacement. Eh bien, si jamais votre instabilité glycémique est en lien avec vos apports alimentaires, la mauvaise gestion, la difficulté de gérer et tout, l'insulinothérapie fonctionnelle, elle a cet avantage-là. Elle vous apprend à compter vos glucides, à savoir combien de grammes de glucose vous avez dans votre alimentation du matin, du midi, même dans les collations que vous allez prendre. Et elle va vous permettre d'ajuster la dose d'insuline effective qu'il vous faut pour accompagner ce repas-là, et pas plus. Et pas plus. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui fait que quand on va lever l'instabilité créée à cause de l'alimentation, on peut améliorer son équilibre glycémique à ce moment-là. De ce fait, on va dire que l'instabilité glycémique était plutôt en lien avec les apports alimentaires, avec un désordre diététique qui est difficile à contrôler. Ça peut arriver, hein. Ce n'est pas évident de trouver toujours de toujours savoir comment gérer l'alimentation. Et puis même cette alimentation, la gérer en fonction de l'activité physique qu'on va avoir, en fonction des événements qui vont arriver dans notre vie, c'est-à-dire qu'on peut avoir un peu de fièvre, on peut avoir une situation intercurrente qui vient compliquer les choses. Donc voilà, adapter la quantité d'insuline à ce qu'on mange réellement est déjà une amélioration de la prise en charge de notre diabète. Alors, Bernard nous demande si mon diabète de type 2 ne se stabilise pas, peut-il évoluer en diabète de type 1 ? Je ne sais pas, le diabète de type 2 répond à une physiopathologie particulière qui n'est pas celle du diabète de type 1. C'est deux diabètes différents. Ce qu'on peut dire à Bernard, c'est que le diabète de type 2 peut un jour être insuliné parce que la cause qui détruit le pancréas, elle, n'est pas traitée. On traite la conséquence, c'est-à-dire les hyperglycémies. On va traiter les hyperglycémies dans le diabète de type 2 d'abord avec des mesures hygiéno-diététiques et de l'activité physique. Puis on va passer au traitement antidiabétique oraux si on n'arrive pas à être dans l'objectif et de l'hémoglobine glyquée et des glycémies qu'on s'est fixées. Et si malgré ce, en rajoutant les antidiabétiques oraux par stratégie au fur et à mesure, on n'arrive toujours pas à équilibrer les glycémies du patient tout en étant bien contrôlé sur le plan alimentaire et sur le plan de l'activité physique, ben, un jour ou l'autre, de médicament en médicament, si ça ne marche pas, ben on sera tenu d'arriver à l'insuline. Et cette insuline qu'on peut prendre sous forme de multi-injection ou sous forme de traitement par pompe à insuline, puisque vous savez que maintenant les pompes à insuline sont également prescrites chez le diabétique de type 2, pour mieux équilibrer les glycémies du patient. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le diabétique de type 2 a moins d'instabilité glycémique. C'est plus facile de contrôler les glycémies par pompe et par tous les dispositifs chez le diabétique de type 2. C'est pour ça que ce diabète instable, on dit touche, celui dont on parle aujourd'hui, touche d'abord le diabétique de type 1, hein, et très peu le diabétique de type 2. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour des questions en lien avec le sujet du jour. Je vous remercie de ne pas nous tenir rigueur de la qualité de l'image. Nous sommes très heureux d'avoir répondu à vos questions et avoir essayé d'éclaircir un peu les données sur ce diabète instable qui n'est pas un diabète simple. Et nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine. Nous vous disons donc merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète 66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.